Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique juridique. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la suite du petit historique de la justice en France que nous avions commencé par la chronique 34, par la justice seigneuriale, celle qui était applicable la plupart du temps aux petites gens. Alors, je fais déjà une spéciale dédicace à une de mes clientes qui se reconnaîtra et qui me l'a demandé, qui m'a dit « Mais enfin, où est la suite ?» Eh bien écoutez, elle est là. Je fais également une dédicace à mes étudiants de l'école Pigier de Montpellier qui vont donc avoir la joie de m'entendre avant même de me voir en premier cours. En effet, donc, ce n'est pas que l'actualité judiciaire ou législative soit en panne, mais enfin, après avoir mangé un très long feuilleton sur le choix d'abord du Premier ministre, puis de son gouvernement, la justice n'a finalement pas beaucoup bougé ces derniers temps. Et puis cette chronique aura par ailleurs une vertu éducative, donc puisque je la destine à mes étudiants qui vont plancher dessus. Nous allons donc évoquer la justice royale, qui est donc l'autre partie de la justice de l'Ancien Régime, c'est-à-dire avant la Révolution française, avec la justice seigneuriale que nous avions vue la dernière fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant la Révolution, nous verrons la justice depuis la Révolution pour le dernier volet de cette trilogie un peu plus tard, la justice procède exclusivement du roi. Déjà, lorsque le roi est sacré à la cathédrale de Reims, il reçoit un sceptre, un bâton, qui s'appelle la main de justice et qui est un symbole qui rappelle à tous que la justice, c'est lui! Même la justice seigneuriale n'est jamais qu'une délégation de la justice royale. Et la meilleure preuve, c'est ce que nous disions la dernière fois. Le droit de statuer en appel d'une décision de la justice seigneuriale appartient uniquement au roi, qui statue parfois lui-même. Sa décision, ou celle des juridictions royales, étant donc celle qui s'impose à la fin. Le roi a raison, le roi a toujours raison. On se rappellera aussi que le roi avait imposé que toute condamnation à mort prononcée par la justice d'un seigneur disposant de la haute justice devait obligatoirement être soumise en appel à une juridiction royale et finalement il n'y avait pas tant de confirmations de peine de mort qu'on le croit. La seule exception, et j'ouvre une parenthèse, ce sont les condamnations prononcées par les tribunaux de l'Église qui ont condamné moult prétendues sorcières et autres hérétiques à être brûlées ou pire, qui échappent à la justice du roi. La justice royale s'organisait de manière extrêmement confuse, surtout parce que les noms changeaient selon les régions, mais globalement, il y avait deux niveaux. Un niveau pour les affaires ordinaires et un niveau pour les affaires importantes. Pour les affaires ordinaires, on trouvait les châtellenies, prévôtés, vicomtés, viguerie ou autres baillis. Alors à Gignac, par exemple, c'était une viguerie. L'appellation variait donc selon les zones géographiques et elle constituait le premier ressort des affaires les plus courantes, c'était les tribunaux de base, on va dire. La plupart des affaires judiciaires se traitent devant des affaires ordinaires. Il s'agit de la justice déléguée puisque le roi délègue son pouvoir judiciaire à des juges qui sont des officiers, c'est-à-dire des fonctionnaires qui ont acheté leurs charges et qui sont héréditaires. Les juges étaient donc, un peu comme les notaires, des personnes qui achetaient et qui vivaient de leurs charges. Autour des juges gravitent des centaines d'avocats, de procureurs, de greffiers, d'avoués. Les tribunaux royaux sont hiérarchisés. Le premier échelon est le tribunal du prévôt royal, ou le viguier, ou le vicomte, ou le prévôt. Créés au Moyen-Âge, par exemple, les prévôts représentent le roi dans les seigneuries que celui-ci va acquérir. Sous l'Ancien Régime, leurs attributions sont extrêmement réduites et on peut faire appel de leurs décisions devant le tribunal du bailli ou du sénéchal, qui est le deuxième échelon de la hiérarchie des tribunaux, c'est-à-dire, si on veut, la cour d'appel. Au milieu du XVIe siècle, le roi va même créer des tribunaux spéciaux qu'on appelle les présidiaux et qui n'ont rien à voir avec Zorro, même si on entend parler à un moment de présidial, en transformant certains tribunaux de bailliage. Le présidial, c'est un peu le tribunal du bailli, là où il est implanté, et il sert par ailleurs de tribunal d'appel. Il y en a 60 à l'origine et une centaine au XVIIIe siècle, donc en deux siècles. Mais en fait, en raison des limites financières relativement basses des affaires, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne statuaient que jusqu'à hauteur de tant de préjudices, par exemple 600 tournois royaux. Au-delà, ce n'était plus eux, c'était les parlements. Donc du fait des limites financières relativement basses des affaires qu'ils peuvent traiter, leur rôle va s'amoindrir puisque entre-temps, il y a une grosse inflation et une perte de valeur de la monnaie. Les présidiaux vont par ailleurs être violemment combattus par les parlements étant tenus par les nobles, à qui ils enlèvent des affaires, donc évidemment des revenus, puisque tout ce beau monde vit des affaires qu'on lui présente. Et au niveau supérieur, ensuite, on trouvera les parlements, dont on vient de parler, ou les conseils souverains. Comme on l'a dit, les ecclésiastiques et les crimes religieux échappent à la justice du roi et sont jugés par des tribunaux qu'on appelle les officialités. De même, les nobles ne sont pas jugés par les tribunaux ordinaires, évidemment, juste bon pour les gueux, mais par le tribunal des points d'honneur instauré sous Louis XIV, et pour les affaires criminelles, parce qu'il y en a, par la chambre des Tournelles. Il faut savoir d'ailleurs que les nobles bénéficiaient d'un avantage. Alors à ce stade, je ne sais pas si c'est un avantage, mais lorsqu'ils étaient condamnés à mort, on ne les pendait pas. C'était assez vulgaire de gigoter au bout d'une corde. On leur coupait la tête de manière plus propre et plus nette. En tout cas, il semblerait que ça fasse moins mal. Au terme de ce tableau que j'ai simplifié, on se dit que c'était quand même un joyeux camailleux, pour ne pas dire un bordel, de juridiction, alors dans tous les sens. Situation aggravée par une particularité de l'époque. Les juges sont des gens qui ont acheté leur charge et font payer le procès. Ils percevaient ce que l'on appelait à l'époque les épices, mais c'était pas du poivre, c'était du vrai argent. De là à dire que votre affaire avançait, voire se terminait bien pour vous si vous aviez beaucoup d'argent à donner aux juges, d'autres que moi, contemporains de l'époque, par exemple Molière, l'ont dit pour moi. Alors la monarchie va bien essayer d'améliorer et simplifier le système. Et sous Louis XV, en 1771, le chancelier Maupeou, qui est en fait le ministre de la Justice de l'époque, tenta de simplifier ce système par dissolution des parlements, création de conseils supérieurs au nombre de 6 dans le ressort de l'ancien parlement de Paris et d'autres en province, composés de magistrats recrutés selon leurs mérites et payés par le roi, donc des fonctionnaires. Cependant, la réforme va se heurter à l'opposition des parlementaires. Elle a été annulée à son avènement par Louis XVI en 1774 et n'eut pas le temps de produire tous les effets escomptés. Et notamment, elle aurait peut-être participé à éviter la Révolution française. Mais en fait, là comme ailleurs, il faudra attendre précisément cette révolution de 1789, puis l'Empire, pour parvenir à une vraie simplification par l'unification des tribunaux et des cours de justice qui dessineront le système que nous connaissons encore aujourd'hui, plus de 2 siècles après. Bon, cela fait déjà beaucoup à digérer et je vous parlerai donc de cette justice post-révolution la prochaine fois. Voilà, vous savez tout et je vous retrouverai avec plaisir sur Radio Pays Héros et RPH Sud dans 15 jours, car n'oubliez pas, vous en avez pris pour perpète. Au nom de la loi, une chronique judiciaire de Laurent Hupaï, avocat, écoutez les 2e et 4e mardis du mois à 12h45, rediffusion le jeudi à 9h35.